Donc, s'il faut me présenter, vous avez mon appartenance sur cette première diapo, hein, puisque je suis professeur à l'université Paris-Est Créteil et que j'appartiens à une équipe de recherche qui est commune à cette université, à l'université Paris 8, hein, le CIRCEF TESCOL, qui, depuis déjà pas mal d'années, produit des analyses sur les questions d'inégalité scolaire, sur les questions de l'éducation prioritaire, hein, et dont plusieurs membres ont participé activement, depuis longtemps d'ailleurs, aux travaux du centre Alain Savary. Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui est paradoxalement un tout petit peu en décalage avec la présentation du stage qui vient de vous être faite, puisque si elle se situe effectivement, comme le disait Marie-Odile tout à l'heure, au cœur de la classe et des échanges langagiers dans la classe, hein, le titre que je lui ai donné, Langage des enseignants, Langage des élèves, l'indique bien, si elle se situe aussi au cœur de la problématique des inégalités d'apprentissage, hein, en revanche, il ne s'agira pas de plurilinguisme du tout dans ce travail de recherche que je vais présenter. Donc de quoi s'agit-il ? Il s'agit s'intéresser au langage dans la classe, mais non pas en tant qu'objet d'apprentissage, hein. Bien évidemment, l'école a pour but d'amener les élèves à maîtriser les divers aspects du langage, oral et écrit, je vais y revenir tout de suite, hein, mais le langage est aussi la matière même du travail de l'enseignant, l'instrument des apprentissages dans toutes les disciplines et de tous les apprentissages transversaux. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui va être abordé maintenant, même si évidemment on pourrait dire quand on s'intéresse au langage dans la classe, on est bien obligé de constater que les choses ne sont pas aussi séparées que ça et que très souvent on fait d'une pierre deux coups. Et c'est-à-dire que à travers même ce qui se passe dans la classe, dans les échanges langagiers, il y a des apprentissages langagiers qui se font. La recherche sur laquelle je vais m'appuyer s'intéresse, et on va donc y réfléchir ensemble, au statut et aux usages du langage en classe. Hein, il s'agit d'observer ce statut et ses usages. Le point de départ, hein, de ce travail, hein, c'est le constat qui s'inscrit maintenant sur ma diapo, hein, les différentes manières de parler et d'écrire contribuent à développer des rapports différents à l'expérience et aux objets travaillés à l'école, hein, aux objets savoir, rapports qui peuvent être plus ou moins favorables à la réduction des inégalités scolaires. Donc, hein, à la fois l'hypothèse, hein, le point de départ du travail et ce que je vais essayer de mettre en évidence, hein, c'est des manières, hein, des manières de se situer et d'utiliser, on pourrait dire, le langage écrit et oral par les enseignants et du coup par les élèves, et ce que ça peut produire, hein, en termes de chances données aux élèves. Réduction ou non des inégalités scolaires. Je vais commencer par par situer le cadre, hein, avant de présenter la recherche elle-même. Situer le cadre. encadre en ce qui concerne la conception du langage qui sous-tend cette recherche, cadre en ce qui concerne les travaux de mon équipe et du réseau Reseda qui a aussi beaucoup travaillé là-dessus sur la co-construction de la difficulté scolaire. Et pour finir, mais ce sera le cœur de l'exposé, évidemment, cette analyse des pratiques langagières de trois enseignants, plutôt de trois enseignantes d'ailleurs, de cours moyen deuxième année. C'est là qu'on a fait cette recherche dans leur classe. Il s'agit bien d'inclure là-dedans le langage oral et le langage écrit. C'est vrai qu'on peut avoir tendance, par un raccourci, quand on évoque le langage, d'évoquer plutôt l'oral. Dans mon esprit, il s'agit bien de l'oral, évidemment, dans la classe. Et vous verrez tout à l'heure, je vais beaucoup m'appuyer sur les interactions orales. Mais langage, c'est l'oral et c'est l'écrit. Oral et l'écrit, l'oral et l'écrit étant dans une continuité, il s'agit pas du tout, la thèse que je défends est pas du tout celle d'une rupture entre l'oral et l'écrit. L'écrit transcrit l'oral, historiquement d'ailleurs l'écrit est très récent, et qu'il s'agisse d'oral ou d'écrit, il s'agit bien il s'agit toujours de ce que un peu de la même chose par rapport aux fonctions du langage. Il s'agit bien de communiquer, il s'agit bien de s'exprimer, il s'agit bien d'avoir une influence sur son interlocuteur, il s'agit bien de constater que la communication passe, il s'agit bien de pouvoir produire des effets esthétiques. Ce que Jacobson, il y a déjà bien des années, avait décrit à travers son schéma des fonctions du langage. Mais il y a des spécificités de l'un et de l'autre. Le langage écrit est beaucoup moins dépendant que le langage oral de la situation de communication, d'où des difficultés particulières et un rapport particulier au langage que nécessite l'entrée dans l'écrit. L'écrit est beaucoup moins dépendant de l'ici et maintenant, de la situation de communication, de l'énonciation. Vygotsky, dans une formule célèbre pour montrer ou pour décrire ce caractère plus abstrait du langage écrit, disait que l'écrit est l'algèbre du langage. Même rapport que l'algèbre par rapport à l'arithmétique, si vous voulez. Vous connaissez peut-être aussi les analyses de David Olson à propos de l'écrit, où il montre magistralement comment l'écrit arrive à compenser, a besoin et arrive à compenser ce qui serait sa pauvreté, si on peut dire, puisque l'écrit ne peut pas recourir à tout ce que l'oral implique à travers la gestuelle, les mimiques, les intonations. Ça n'existe pas à l'écrit. Donc, pour pouvoir aider le destinataire, l'auditeur, le lecteur, à l'écrit, à interpréter ce qui est produit, il y a besoin à l'écrit de recourir à d'autres choses, à recourir notamment à tout un lexique beaucoup plus élaboré. Les exemples qui sont pris par Olson, ce sont des exemples dans des situations où on essaie de faire passer une intention ironique ou humoristique. Si on veut faire comprendre à son interlocuteur à l'oral que ce qu'on dit ne doit pas être pris au sérieux, ou au contraire que c'est le contraire de ce qu'on veut dire. Vous avez l'air particulièrement en forme ce matin, en regardant quelqu'un qui a l'air épuisé. À l'oral, le sourire en coin, l'œil qui brille, etc., va faire comprendre tout de suite, et puis la situation est Florida. À l'écrit, il va falloir passer par d'autres moyens et on risque autrement le contresens. Le langage, il a un contenu, mais l'intention dans laquelle il est un message est délivré a toujours besoin d'être interprété par l'interlocuteur ou par le destinataire, le lecteur à l'écrit. Autre spécificité de l'écrit par rapport à l'oral, c'est que l'écrit laisse une trace. C'est une évidence. On connaît le proverbe latin, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais c'est quelque chose de tout à fait fondamental, puisque c'est parce que l'écrit fait trace que l'écrit peut aussi faire mémoire, et que dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire des sciences, l'écrit a une importance aussi grande, puisqu'il permet de revenir sur ce qui a déjà été trouvé, acquis. Il permet d'annoter, de gloser, il permet un retour sur ce qui a déjà été écrit, et aussi d'ailleurs un retour sur son propre discours écrit, d'où la puissance réflexive de l'écrit. L'écrit n'est pas jeté une fois pour toutes. Bon, donc des spécificités. L'autre élément sous-jacent et qui sera sans doute important d'avoir en tête tout à l'heure quand j'en viendrai à la recherche de terrain elle-même, c'est que le langage est, comme le disait Vygotsky, encore lui, un instrument cognitif. C'est à travers le langage, à travers cet instrument qui fait partie et qui est sans doute un des plus puissants des instruments sémiotiques, symboliques, qu'on pourrait dire, qui sont décrits par Vygotsky, le langage va permettre de, et c'est toujours, là je m'inspire toujours de Vygotsky, un passage des concepts quotidiens aux concepts scientifiques, extrêmement important donc à l'école, une objectivation, une mise à distance des savoirs, la mise en mots est indissociable de la pensée. Pas de pensée sans langage, et pas de langage sans pensée, ça je n'en suis pas sûr, mais c'est peut-être justement un des enjeux de ce qu'on pourra dire tout à l'heure par rapport à ce qui se passe à l'école, et tout ne se vaut pas dans les pratiques langagières qui sont mises en place à l'école, mais j'y viendrai après, parce que peut-être justement un certain nombre d'utilisations du langage à l'école ne sont pas des utilisations d'un langage qui permet des élèves élaboration cognitive qui permet de penser. Donc, j'étais un peu en avance par rapport à ce qui s'inscrit maintenant sur la diapo. On peut opposer justement ce langage des échanges quotidiens au langage d'élaboration. Et ça n'est pas seulement une opposition oral-écrit. Même si l'oral est par excellence le langage du quotidien, il y a aussi des messages oraux, des énonciations orales qui appartiennent à ce registre du langage d'élaboration. La réussite scolaire suppose des usages du langage qui permettent d'élaborer des significations et de construire des savoirs. Et ce n'est pas, pour être parfaitement clair, même si la question des niveaux de langue, des registres de langue, ce qui est autorisé ou dans telle ou telle situation d'échanges sociaux n'est pas une interrogation à écarter. C'est vrai que c'est tout à fait important à travailler aussi à l'école, mais c'est pas de ça que je suis en train de parler. Quand je parle d'un langage d'élaboration qui serait propice à la construction des savoirs. Il s'agit bien d'un usage du langage, y compris, et on le verra tout à l'heure dans les exemples d'échanges dans la classe, ça n'est pas forcément incompatible avec un langage très 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 oral, très avec avec toutes les imperfections d'un langage qui se construit au moment où on l'énonce. Hein, ça n'est pas du tout incompatible. Hein, ça n'est pas ce langage d'élaboration. Hein, ça n'est pas simplement un langage soutenu ça n'est pas incompatible avec un langage plus hésitant, qui justement dans lequel on voit la pensée qui se construit dans l'énonciation et dans l'échange. Et peut-être pour avancer, pour faire mieux comprendre ce que ça peut être que ce langage d'élaboration, je reprendrai les termes, hein, les notions de langage second et de langage premier, hein, langage second versus langage premier, où le terme de secondarisation qui est très employé par Elisabeth Bottier et par d'autres chercheurs de notre équipe, qui sont des notions, hein, historiquement reprises à Bakhtin. Hein, Bakhtin évoque la différence entre les genres premier et les genres second. Bon, Bakhtin, c'est dans le cadre d'études de critique littéraire, hein, on pourrait dire, mais ça a été repris de manière, parce que finalement c'est une distinction qui est assez puissante et qu'on peut généraliser. Donc ça a été repris souvent et ça a été repris en particulier donc par les chercheurs de notre équipe, hein, pour opposer ces genres premiers qui sont les genres de l'immédiateté, de la conversation ou à l'écrit, des notes qu'on prend hein, de manière immédiate et pas élaborée. Donc justement, les genres seconds étant des genres qui permettent la réélaboration, la généralisation, hein, la conceptualisation, une reconfiguration dans un nouveau contexte, hein, une reconfiguration des contenus, de l'expérience, des savoirs, hein, dans un nouveau contexte, comme c'est le cas dans l'œuvre littéraire, dont c'est les exemples de Bakhtin, hein, mais aussi dans un article scientifique ou dans des genres scolaires, justement, qui permettent les apprentissages à travers des élaborations. On trouverait des échos de cette problématique, hein, des croisements, même si c'est avec des concepts différents, hein, chez d'autres auteurs. Du côté de la sociologie, Bernard Lahire, évidemment, hein, quand il évoque, hein, et je reprends ces termes, je reprends ces concepts à Bernard Lahire, hein, quand il évoque d'un côté une socialisation langagière familiale, scripturale, scolaire, hein, et d'un autre côté une socialisation langagière orale pratique, il veut rendre compte aussi de cette distinction entre alors là ça hein, Bernard Lahire il évoque l'écrit, hein, et ce sont des analyses qui enfin un certain nombre de ces analyses concernent l'école, hein, et les conséquences, hein, sur la manière dont ça se passe à l'école, selon que les enfants dans leur famille se sont socialisés dans le cadre du scriptural scolaire, hein, ou de l'oral pratique, hein, et vous devinez à travers les termes mêmes qui sont employés ce qui va être le plus immédiatement favorable à la réussite scolaire, hein. Bon, donc c'est la même opposition, hein, si on regarde les choses de manière plus plus haut, hein, entre immédiateté et réflexivité, hein, que dans les analyses s'expriment plutôt en termes de secondarisation. Je saute à un domaine tout à fait autre. Là, je passe de la sociologie à tout à fait autre chose, la psychologie cognitive. Les chercheurs canadiens Marlène Scardamalia et Carl Beretter quand il distingue deux stratégies d'écriture. Hein, il s'agit aussi d'analyse sur l'écriture. Hein, ce sont dans des recherches qui ont été menées dans les années 80, donc qui sont maintenant devenues classiques, sur l'évolution, hein, sur le développement des compétences à écrire chez les jeunes scripteurs, hein, et il montre le passage d'une stratégie des connaissances racontées, hein, ce que en anglais c'est knowledge telling strategy, hein, donc passage d'une stratégie des connaissances racontées à une stratégie des connaissances transformées, hein. Donc les plus jeunes scripteurs, les scripteurs les plus novices en tout cas, hein, sont dans la première stratégie, et puis progressivement avec l'expertise, hein, on passe plutôt à la possibilité, hein, de mettre en œuvre une stratégie d'écriture qui est celle des connaissances transformées, hein, knowledge telling strategy. Quelle est la différence, hein? Qu'est-ce qu'il y a sous chacune de ces stratégies, hein? La première, hein, c'est, on pourrait aussi traduire, si on veut, hein, au lieu de bon telling, raconter, dire, hein, mais on pourrait dire restituer aussi, hein? Il s'agit finalement, utiliser ses connaissances, utiliser ce qu'on a enregistré en mémoire, finalement dans l'ordre où ça vient, hein, dans l'ordre où ça vient, éventuellement dans l'ordre où on les a acquises, alors que dans la stratégie des connaissances transformées, eh bien il s'agit bien d'une réélaboration à travers le langage. C'est bien pour ça que je fais le rapprochement, même si là c'est dans une, hein, dans ce contexte de la psychologie, il n'y a pas ce rapport à ce qui est efficace à l'école et à ce qui permet aux élèves de réussir, hein, mais il y a quand même une parenté qui, moi, m'intéresse beaucoup, puisque on retrouve, hein, cette opposition, ce qu'on appelait à l'instant immédiaté réflexivité, hein, là c'est simplement restituer les choses, hein, par rapport à un langage, alors chez Scardamadia et Beretter, essentiellement écrit, puisque ce sont des chercheurs qui s'intéressent, hein, à l'écriture, à la production d'écrits, hein, mais il s'agit bien donc d'opposer, hein, la restitution à une utilisation du langage beaucoup plus puissante, hein, plus réflexive, puisque il s'agit de réélaborer ces connaissances, hein, avec donc ce pouvoir transformateur du langage, hein. Et c'est bien de ça, hein, c'est bien à ça qu'on a besoin d'introduire les élèves pour qu'ils réussissent à l'école, pour qu'ils apprennent. J'avance sur le cadre, hein, en essayant de montrer maintenant ce que ça va vouloir dire en termes d'échecs, enfin, ou de difficultés scolaires, en tout cas, sélectives de certains élèves par rapport à d'autres, hein. Usage contrasté du langage, hein, qui sont plus ou moins favorables à la réussite des apprentissages, hein, vous l'aurez compris dans ce que je viens de développer. Et ces usages se construisent précocement dans le milieu socio-familial, hein. Les élèves n'arrivent pas, c'est un peu une évidence, hein, ça a été montré depuis un certain temps maintenant par les sociologues, hein, les élèves n'arrivent pas avec les mêmes chances, et leur rapport au langage est extrêmement... Enfin, joue un rôle, je l'ai dit déterminant, mais je me reprends, parce que ça n'est pas justement, je ne défends pas du tout une thèse déterministe, puisque vous allez voir aussitôt après dans ma diapo suivante que je vais au contraire insister sur le rôle de l'école, et c'est bien le discours que je tiens à tenir aujourd'hui. Il n'y a pas de fatalité, hein, il n'y a pas de déterminisme, le rôle de l'école est tout à fait important. Mais les choses se construisent dans le milieu socio-familial. Voir les analyses de Basil Bernstein qui remontent aux années 60-70, hein, langage et classe sociale, ça avait été traduit en français en 75, si je me rappelle bien. C'est des analyses tout à fait classiques, mais qui, transposées aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, en France et non pas en Angleterre, où ça a été, sont toujours extrêmement importante à prendre en compte et aide beaucoup à y voir clair. Hein. Donc Bernstein qui notamment oppose des familles à contrôle positionnel et à contrôle personnel, hein, et la manière dont ça se passe dans les échanges langagiers dans la famille dès la plus petite enfance entre le contrôle positionnel où il s'agit d'avoir des interventions relativement stéréotypées, fais pas ci, fais pas ça, comme dit la chanson, si je veux un peu caricaturer, hein, ou au contraire des échanges, hein, ce que Bernstein appelle le contrôle personnel, des échanges qui sont des échanges pour parler du monde, des échanges où on argumente, ou etc. De manière beaucoup plus récente, et comme c'est quelque chose que vous connaissez sans doute moins que des travaux souvent cités de Bernstein, hein, j'évoquerai une recherche récente de Stéphane Bonnery, qui est un autre membre de notre équipe ESCOL. Il a mené des enquêtes, des observations, hein, auprès de parents, d'enfants de 5 ans, de milieux socio-économiques différents. Hein, il oppose dans sa recherche trois milieux qu'il avait caractérisés de manière typée. Et ce qu'il montre à travers ces analyses, qui sont donc des analyses de terrain, hein, des analyses fondées sur ces observations. Alors je n'ai plus en tête le nombre de familles, mais dans un nombre de familles important, hein, il a regardé, hein, la manière dont les parents lisaient des albums à leur enfant. Et vraiment, c'est du contexte écologique, hein, c'est ce qui se passe. Alors évidemment, la présence d'un observateur, on le sait, peut changer des choses, mais au bout d'un moment, les parents deviennent forcément naturels. Hein, c'est comme dans les observations de classe, ça change des choses au début, et puis après, on voit plus la caméra, on ne voit plus l'observateur. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est que selon le milieu socio-économique, les parents s'y prennent pas du tout de la même manière pour lire des albums aux enfants, et qu'il y a un rapport effectivement à l'écrit littéraire, hein, qui participe à mettre en place des choses tout à fait différentes et des compétences tout à fait différentes chez les enfants, hein. Alors donc je vais très vite, hein, opposition notamment entre dans les milieux défavorisés, des questions fermées, hein, ou bien dans des milieux favorisés intellectuels, des choses qui sont plutôt autour de l'album, de l'ordre de la discussion, qui encourage à comprendre plus en profondeur à plusieurs niveaux de signification. Le point de départ, enfin les enfants qui arrivent à l'école maternelle, qui arrivent ensuite à l'école élémentaire et qui continuent leur scolarité ensuite, ils arrivent avec ces dispositions sociolangagières, mais ça ne peut pas dire que tout se joue dans la famille, au contraire, hein, et vous connaissez sans doute, je n'insisterai pas là-dessus, sinon je vais faire éclater mon temps. Pascal Bressou, hein, en France, a mené des recherches et il a beaucoup popularisé en produisant des synthèses de recherches internationales sur la question des éphémètres, hein, c'est-à-dire que pour dire les choses de manière un peu rapide et synthétique, finalement ce qui se joue en classe ce qui se joue en classe pèse de manière plus lourde encore encore que ce qui se joue dans les familles. Hein. Pour dire encore les choses autrement, si on veut savoir si un enfant va réussir ou se trouve en difficulté à l'école, il vaut mieux savoir quel enseignant il a que plutôt que de quel milieu socio-professionnel il est issu. Bon. Alors les deux jouent, mais il semble que le scolaire joue encore plus fort que le social, ce qui est plutôt, ce qui peut nous rendre optimistes, puisque ça laisse toute leur place aux acteurs, ça laisse toute leur place aux enseignants, et finalement met en jeu toute la responsabilité des formateurs que nous sommes, donc pour réussir à faire bouger les choses par rapport à ça, et ne serait-ce qu'à faire prendre conscience de ces enjeux à tous les enseignants. Hein. Il y a quelquefois un certain fatalisme, bah oui, ils sont comme ça, et je sais pas trop comment m'y prendre. Dans notre équipe et dans le réseau Reseda aussi, on parle de co-construction de la difficulté scolaire, hein, pour bien montrer, hein, comment les choses se jouent entre ce que les élèves, en arrivant à l'école, apportent de chez eux, hein, de leur disposition langagière, pour parler en termes sociologiques, hein, et ce qui va se passer dans la classe, hein, dans une relation extrêmement étroite pour les élèves. En particulier ceux qui nous intéressent, ceux qui sont en difficulté. Pour bien vous montrer de quoi il s'agit, hein, je crois que ce sera aussi toute cette longue entrée en matière va sans doute permettre de mieux me faire comprendre dans l'analyse de ce qui se passe dans les trois classes de CM2 que je décrirai après. Deux exemples qui ne sont pas tirés donc de ma recherche, deux exemples qui vont peut-être concrétiser ce que je suis en train de dire. Roland Guagou, dans un article qu'il a écrit à deux voix avec Elisabeth Bautier dans la Revue française de pédagogie il y a déjà une douzaine d'années, analyse de la manière suivante une séance consacrée à l'étude du phonème ouf au cours préparatoire, hein, en début de cours préparatoire. La maîtresse donne cette consigne. Tous les animaux du village veulent aller chez la poule. Pourquoi ? Pour faire la soupe aux cailloux. Les amateurs de littérature de jeunesse reconnaîtront ici un conte célèbre, La soupe aux cailloux, et un album adapté de ce conte avait été lu et avait fait l'objet de tout un travail dans cette classe. Alors pourquoi ils vont chez la poule pour faire la soupe aux cailloux, hein, c'est un peu le scénario du conte. Mais le loup a peur qu'il y ait trop de monde. Le loup ne veut pas tout le monde. Il va choisir les animaux qu'il va laisser entrer chez la poule. Et les élèves sont invités à proposer des animaux. Alors ils proposent toutes sortes d'animaux. Évidemment, vous avez compris que le jeu consiste à, hein, c'est un habillage ludique pour travailler sur le ouf. Hein, donc, il va s'agir d'accepter les animaux pour lesquels on va entendre « ouf », hein, dans le nom de l'animal, et de refuser donc finalement les mots, hein, qui ne contiennent pas de « ouf ». Mais, alors, on pourrait dire, ben oui, c'est bien, c'est intéressant, ça peut motiver les enfants, c'est rigolo, c'est ludique, on est dans le thème du loup et des animaux qui font la soupe. Cognitivement, on est en train de faire du classement, on est en train de faire du tri, on est en train d'essayer de construire la règle du loup. Et puis, évidemment, puisque on est dans un travail qui se justifie par l'idée que pour apprendre à lire, c'est extrêmement important de développer la reconnaissance des phonèmes, hein, l'identification de ce qu'on entend, la segmentation du mot en syllabes, en phonèmes, ensuite, ça a à voir avec l'apprentissage de la lecture. Bon, on voit bien quelles sont les intentions. Le problème, c'est que, alors, en plus de ça, il y a toute une mise en scène, la maîtresse qui joue le loup prend la grosse voix, etc. Bon, c'est. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, à la fin, une bonne partie des élèves n'ont pas compris de quoi il s'agissait, ils n'ont pas compris que derrière ça, il y avait une règle qui n'avait rien à voir avec le jeu, qui n'avait rien à voir avec le contenu, qui n'avait rien à voir avec le contenu sémantique. Hein. Ils se demandaient bien pourquoi des animaux, hein, est-ce qu'il y en a qui sont méchants, pas méchants, etc. Alors que il s'agissait d'un travail sur ce qu'on entendait, d'un travail de segmentation de l'oral en phonème. Et un certain nombre d'élèves, évidemment, les plus fragiles, hein, par rapport à la capacité à utiliser le langage pour réfléchir sur le langage de manière décontextualisée, hein, la communication ordinaire, hein, et du contenu de communication. Bon, tout ça, hein, finalement se révèle différenciateur. C'est-à-dire qu'avec les meilleures intentions pédagogiques possibles et avec tout le talent qu'on peut mettre pour créer la motivation, on arrive à quelque chose qui se révèle contre-productif pour un certain nombre d'élèves et dans la succession des activités au cours de la semaine, du mois, de l'année, hein, avec une récurrence qui va toujours mettre en difficulté les mêmes élèves. Donc, exemple, si vous voulez, de co-construction des difficultés scolaires. Hein, c'est ce que je viens de dire, là, des élèves qui se sont laissés abuser par les traits superficiels de la tâche et qui n'ont pas pu s'investir dans ce qui était l'enjeu, hein, le travail phonologique proposé. On appelle ça aussi, on a désigné ce phénomène aussi dans notre équipe par le terme, par la notion de malentendu socio-cognitif. Il y a un malentendu entre ce que l'enseignant croit faire. Hein, son objectif, c'est un travail phonologique, dans mon exemple. Elle croit que ça met l'ensemble de ses élèves dans une situation, hein, de travail sur la segmentation de l'oral, hein, mais en fait, pour un bon nombre d'élèves, c'est tout à fait autre chose qui se passe et il n'y a pas du tout le travail cognitif attendu. Hein. On a des élèves qui se laissent donc abuser par des traits de surface qui sont dans la surface de la tâche proposée et non pas dans le travail cognitif attendu et que l'enseignant croit mettre en place. Hein. C'est ça, malentendu. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de, je ne sais pas comment dire, de la cécité, hein, de la difficulté à se rendre compte de ce qui se passe effectivement dans la classe. Pour certains élèves, hein, parce qu'en fait, on fait la classe, on met en place des tâches pour les élèves, mais en réalité, quand on va au-delà des tâches et qu'on essaie de regarder quelle est l'activité cognitive que ces tâches mettent en jeu chez les élèves, eh bien, d'un élève à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Un autre exemple, je sais pas si je, bon, je crois que je vais dépasser si j'insiste trop, donc je vais essayer de passer très, très vite. Dans un CM2, c'est Stéphane Bonnery, dans un livre extrêmement intéressant et très, très clair, je trouve, où il a décrit ces phénomènes en suivant des élèves du cycle 3 au collège, hein, donc, il y a une séance tout à fait intéressante, mais parmi plein d'autres, hein. Je vous conseille ce livre qui s'appelle donc publié à la Dispute en 2006, qui s'appelle Comprendre l'échec scolaire, hein, où on a de très nombreuses descriptions de classes, analyses pour montrer, hein, ces phénomènes de malentendus et de co-construction de la difficulté scolaire, hein. Donc une séance de technologie sur un circuit électrique. Il s'agissait de fabriquer l'interrupteur, de manipuler pour réaliser des montages, de dessiner puis de schématiser ces montages, hein. L'enseignante veut faire comprendre que quand le courant électrique passe, l'ampoule s'allume. Hein, elle veut faciliter le passage à la schématisation et l'utilisation des codes symbolisés. Hein, bon, et bon, je vais peut-être ne pas utiliser, pas entrer dans les détails comme je l'ai fait. Mais ce qui est important, c'est de voir que Bassecou, tout au long des deux séances de technologie consacrées à cette affaire, hein, avec plutôt de la manipulation pour mettre en évidence dans la première séance, hein, que quand le circuit est fermé, la lampe s'allume, c'est parce que le courant passe, et puis quand le circuit est coupé, hein, bah ça s'éteint, le courant ne passe plus. Et puis on le voit aussi dans la deuxième séance où on va refaire une deuxième fois le montage et essayer d'en faire un schéma, hein, et cet élève sans arrêt va être dans les traits de surface, hein, va s'attacher aux aspects les plus superficiels de la tâche et ne comprendra pas que, ma foi, si on change la couleur des fils, la longueur des fils, si on schématise d'une manière ou d'une autre en mettant, hein, dans la deuxième séance, ce sera si on schématise avec en mettant les fils en triangle ou en rectangle comme l'a fait l'enseignante au tableau, finalement c'est pareil, parce que ce qu'il y a d'important à montrer dans le schéma, c'est si le circuit est fermé ou pas fermé, et cette circulation électrique dans le circuit. Et à chaque fois, donc, il se perd dans la tâche, il n'écoute pas la suite des explications quand la maîtresse vient l'aider, il est vraiment dans le faire. Et à la fin, quand le chercheur vient lui demander, bon, mais alors pourquoi ta solution était bonne, hein, eh ben parce que Pascal, elle a dit, Pascal c'est la maîtresse, il y a plusieurs bonnes solutions. Oui, mais comment on sait qu'on peut faire les deux, insiste le chercheur. Ben parce que Pascal, elle a dit. D'accord, mais à ton avis, pourquoi elle a dit qu'on pouvait faire les deux? Ben je sais pas, hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'a rien appris. J'en viens donc cette recherche sur les pratiques langagières dans ces trois classes de CM2, hein, qui est donc le cœur de ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc c'est tiré d'une recherche conduite dans trois classes d'enseignantes expérimentées et appréciées, hein, trois enseignantes dont on peut penser que ce sont de bonnes enseignantes, si ce n'est qu'on va montrer que elles ont une pratique du langage, et du coup leurs élèves ont une pratique du langage extrêmement différente et qui va être plus ou moins favorable à la capacité des élèves justement les plus en difficulté de progresser. On a filmé ces classes tout au long d'une année scolaire, une fois par semaine, pendant toute une journée, dans différentes disciplines. Ces analyses que j'ai faites, bon, il y en a eu d'autres sur d'autres aspects du travail dans ces classes, hein, vous pourrait les retrouver et les retrouver d'une manière plus complète que ce qu'on peut dire en un court exposé comme celui d'aujourd'hui, dans l'ouvrage que j'ai co-dirigé avec Jean-Yves Rochex il y a maintenant 4 ou 5 ans, « La construction des inégalités scolaires », sous-titré « Au cœur des pratiques et des dispositifs d'enseignants » et publié aux presses universitaires de Rennes. Donc la question que je me suis posée et que à laquelle je vais essayer de répondre du mieux possible, c'est celle que vous voyez écrite là, sous vos yeux. Quelles caractéristiques ont les usages du langage qu'on peut observer dans ces trois classes? Et ces trois classes, il se trouve qu'elles sont assez contrastées, qu'elles nous offrent des choses tout à fait intéressantes, parce que, alors, typique, je n'oserais pas le dire, il faudrait sans doute faire les mêmes analyses dans beaucoup plus de classes, mais en même temps, on a quand même des chances de penser qu'elles ont une certaine typicité, parce que ça recoupe ce qu'on a vu, ce qu'on a observé au cours d'autres recherches. Il y a vraiment une récurrence avec ce qu'on a pu observer au cours d'autres recherches dans d'autres classes et à différents niveaux depuis la maternelle jusqu'au lycée. Je vais commencer par des points communs. Dans les trois classes, les élèves sont mis au travail. C'est des classes où on travaille. Dans les trois classes, les élèves s'entraînent, les élèves mémorisent. L'enseignante les y aide. C'est pas des classes où on laisse le soin aux élèves ou aux parents de faire les apprentissages à la maison. Il se passe des choses dans la classe. L'enseignante porte attention à tous les élèves, les sollicite tous. On verra même pour l'une d'entre elles jusqu'à quelles extrémités ça va, dans un des exemples que je vous présenterai. Vraiment l'idée qu'il n'y a pas de laisser pour compte, qu'on intervient auprès de tous les élèves. Elle répète les contenus. Il y a un tissage d'une séance à l'autre, un retour sur ce qui a déjà été fait pour s'appuyer là-dessus pour les apprentissages. Elle donne des habitudes de travail, des méthodes, rappelle les méthodes de travail. Elle met en place des habitudes de travail qui vont concourir à la mise au travail des élèves et une mise au travail qui essaie, avec plus ou moins d'ailleurs de succès, de les autonomiser par rapport à ça. Mais de manière assez différente, là, on va le voir dans la mise au travail et les habitudes de travail dans les trois classes. Parlons un peu des habitudes de travail. Alors les trois classes, je les ai, puisqu'elles sont anonymées dans l'ouvrage et ici, je reprendrai la même manière de les désigner que dans le chapitre de l'ouvrage. On les a appelées classe A, classe E et classe N. Dans la classe N, ce qu'elle essaie de mettre en place, c'est une succession d'exercices du même type avec appel à la norme linguistique dans les réponses. Je vais illustrer après. Dans la classe E, l'enseignante insiste beaucoup, notamment dans la présentation du classeur. Donc des habitudes relatives au maniement de l'écrit et des supports de l'écrit, et de l'organisation de l'écrit et des supports de l'écrit. Dans la classe A, notamment, et c'est ce qu'on va voir après dans certains exemples, dans l'anticipation de ce qu'on va faire. On va le voir à propos d'une consigne d'écriture tout à l'heure, cette idée de toujours, enfin d'habituer les élèves à essayer de comprendre finalement ce qu'on va faire après et ce que l'enseignante va avoir fantaisie de leur demander à la suite de du travail qu'on est en train de faire, ce qu'elle va leur demander de faire. Alors, dans la classe N, un exemple. L'enseignante. Je vais peut-être lire, je suis pas sûr, en particulier dans le fond de la salle, que là vous puissiez vraiment lire sur la diapo. Première question, elle lit la question. Rappelez-moi comment on répond à une question. Hein, on est en lecture. La séance de lecture, c'est que il y avait une fiche. Les élèves ont lu le texte, la légende du ski sur la fiche, et ils avaient à répondre à des questions par écrit. Et ensuite, on va regarder ce qu'ils ont répondu aux questions et donc l'enseignante les interroge. Rappelez-moi comment on répond à une question, dit-elle et répète-t-elle, hein, parce que on est au mois de janvier, hein, vous le voyez, et c'est pas la première séance de ce type depuis le début de l'année, et que ce soit d'ailleurs dans des séances de ce type ou dans des séances dans d'autres disciplines, hein, on a retrouvé plusieurs fois, hein, c'est pour ça que je parle de la mise en place ritualisée d'habitude de travail. Bon, rappelez-moi comment on répond à une question. Plusieurs élèves ensemble, en faisant une phrase. Oui, tout le monde le sait, en faisant une phrase. Et comment on va faire une phrase? Oh, j'en ai assez, croisez les bras. Bon, donc, problème d'agitation. Hein. Comment est-ce qu'on va répondre en faisant une phrase? Charlotte. Charlotte répond en reprenant les mots de la question. Alors, on essaie de faire. Qu'est-ce qui a donné l'idée à Flocon de Neige de fabriquer des skis? Lucille, comment tu vas pouvoir répondre à cette question? Et Lucille répond, c'est un ami qui a donné l'idée à Flocon de Neige. Ou encore, Flocon de Neige a eu l'idée de faire des skis en voyant. D'accord. Peu importe la phrase que vous faites, il me faut une phrase qui commence par une majuscule et une phrase verbale. Il faut un verbe. On ne commence pas la phrase par « parce que », répondent les élèves. Bon. Donc, vous voyez, un usage du langage très, très formaliste où il s'agit, hein, de mettre en place de bonnes habitudes en termes de réponses syntaxiquement correctes avec un usage de l'oral très calqué sur l'écrit, hein, complètement explicite, très calqué sur l'écrit. L'enseignante A. Une séance de production de texte à la suite d'un travail en lecture sur une nouvelle fantastique, hein, qui s'appelle Rip Van Winkle, hein, une nouvelle de Washington Irving, hein, auteur américain du 19e, une nouvelle fantastique. Hein. Alors ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, dit l'enseignante de la classe A, hein, c'est écrire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir écrire? L'enseignante va au tableau. Qu'est-ce que je vais vous demander? Hein, et elle s'apprête à écrire au tableau. Allez, hypothèse. Qu'est-ce qu'elle va demander la maîtresse? Et beaucoup d'élèves lèvent le doigt avec enthousiasme. On est là aussi dans quelque chose d'assez ritualisé, hein, qui se met en place progressivement, séance après séance, où il s'agit, hein, d'anticiper, hein, comme je vous le disais, de se demander ce qui va y avoir à faire. Bon, Eva répond, écrire quelque chose un peu comme ça, hein, quelqu'un qui se réveille, que les gens ne reconnaissent pas. Maxime, tu as une idée? Qu'on fasse une toute petite histoire, mais avec tous les éléments, enfin, du texte fantastique, oui. Et une autre élève dit, oui, jouer avec le temps. Bon. Donc, on construit là, avec les élèves, un travail qui, là, on est en production d'écrit, hein, grande importance aussi dans cette classe de l'écrit, hein, mais pas d'un écrit simplement réponse à des questions, des questions souvent d'ailleurs un peu superficielles sur le texte, mais des écrits qui vont aussi participer, tout comme les échanges oraux précédents et les échanges oraux autour là de la construction de cette consigne, à la compréhension en profondeur de l'enjeu du texte, de la nouvelle, hein, qu'on a lue dans la séance de littérature. Dans la classe N, donc, enjeu exclusivement linguistique qui peut aboutir à l'emploi d'une langue à la syntaxe stéréotypée. Les élèves s'adaptent aux tâches régulièrement proposées, acquièrent des rituels, des routines, sans pour autant réussir dans ces tâches qui nécessiteraient une compréhension plus en profondeur des savoirs en jeu. Dans la classe A, des pratiques langagières beaucoup plus sophistiquées. Hein, dans l'exemple de l'anticipation de la consigne d'écriture, les élèves reconnaissent une consigne habituelle. Il y a un effet d'entraînement à répondre à ce type de consigne, mais il y a aussi travail d'anticipation, de réflexion, d'élaboration cognitivo-langagière. En reconnaissant une forme de travail habituel, ils anticipent plus ou moins explicitement un objectif didactique et non la routine de tâches prises dans leur aspect plus superficiel. Hein, vous voyez comment, et pourquoi j'insistais avant de donner cette analyse, hein, sur la mise en place des concepts qui nous sont chers dans l'analyse de ce qui se passe dans les classes, comme celui de malentendu ou de co-construction. La question, c'est bien d'amener les élèves à repérer les enjeux du travail, hein, au-delà de la surface des tâches. Finalement, ce qu'on voit déjà s'amorcer, ce que je vais finir de décrire maintenant, c'est une opposition entre cette classe A où on parle et où on écrit pour penser, hein, où on est dans l'élaboration, hein, un langage d'élaboration, et les deux autres classes où, avec deux variantes que j'essaierai de montrer, on parle et on écrit essentiellement pour restituer. Premier constat, l'enseignante de la classe A parle beaucoup plus que les deux autres enseignantes. Elle parle beaucoup. On pourrait dire qu'elle enseigne beaucoup. Hein, par rapport à une, je sais pas comment dire, hein, à l'idée qui est souvent, qu'on entend souvent, qui voudrait qu'il s'agit que les choses viennent des élèves et que ce qui compte essentiellement dans la classe, c'est de faire parler les élèves. J'y mettrais une modulation. Hein. Faire parler les élèves, certes, hein, je ne suis pas en train de me faire le défenseur d'une pédagogie où simplement le discours de l'enseignant suffirait, hein, pour que les choses infusent chez les élèves. C'est pas du tout le sens de mon propos, mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement important, hein, dans la manière dont l'enseignant s'y prend, et cette hein, pour amener les élèves à parler, mais l'exemple, si vous voulez, dans le modèle qu'elle peut leur donner, hein, pas le modèle linguistique, hein, exclusivement. On dit quelquefois, eh ben oui, c'est la référence linguistique, hein, et là on serait en particulier dans le registre de langage, dans la richesse du langage, dans la correction du langage, etc. Non, vraiment, c'est vraiment dans les usages, dans ce qu'elle fait, hein, dans la pragmatique, hein, si vous voulez, de l'utilisation, des pratiques langagières de l'enseignante. Alors cette enseignante qui parle beaucoup, elle parle beaucoup pour quoi faire ? Ben, elle sollicite constamment le langage et la réflexion des élèves. Elle les stimule, en particulier les plus faibles, pour des activités cognitives de haut niveau. Des questions ouvertes et considérées dans les usages de la classe comme devant être étayé par des preuves ou des arguments. Alors là, je vais vraiment vous lire parce que je pense que vous ne pourrez absolument pas lire les échanges. On est dans une séance de lecture, toujours dans cette séquence autour de Rip Van Winkle, Rip l'endormi. On est au mois de mai. Au moment où il se réveille, est-ce qu'il sait qu'un nombre d'années s'est écoulé ? Demande la maîtresse. Julien, non. Plusieurs élèves en même temps, non de la tête. L'enseignante, non, il ne le sait pas. Alors comment va-t-il se rendre compte de tout cela ? Est-ce que ça va être tout de suite ? Non. Qui est-ce qui peut me donner les événements ? Antonella. D'abord, il croit que c'est ceux qu'il a rencontrés qui lui ont volé son fusil. Et puis, il rentre au village après avoir vu que son chien, il était parti. Et puis, là, au village, toutes les maisons, elles ont changé. Et il ne connaissait plus personne. Et il se fait passer pour un fou parce que les personnes ne le reconnaissent plus. Enfin, ne le connaissent pas. L'enseignante. Et à ce moment-là, au moment de ce retour dans le village, allez, Flavie, il y a ça, je ne sais plus si c'est sa mère ou sa fille, qui vient lui parler, qui lui dit que Rip Van Winkle, il est mort depuis des années. Et puis elle hésite, elle arrête. Alors l'enseignante reprend. On pense, hein. C'est pas une affirmation. C'est-à-dire qu'il naît, et un élève complet n'est jamais revenu. Oui, jamais revenu. La description que l'on fait de cette disparition, elle correspond à quoi dans la réalité du texte? Cette disparition du personnage, Rémi. En fait, ça veut dire que Rip Van Winkle, après qu'il a bu, il a dormi longtemps. Et est-ce que c'est quelque chose qui est vraisemblable? Est-ce qu'on peut se l'imaginer? Alors, plusieurs élèves répondent en même temps. Oui, non, non. Antoine, pourquoi tu dis oui? On peut... Ah non, c'est toi, Maxime. Maxime, imaginez. Ça ne peut pas être réalisé, mais on peut quand même imaginer. Eh oui, on peut l'imaginer. Dans une autre histoire, vous avez cette idée de sommeil pendant ce temps, etc. Bon, et le travail continue. Vous voyez, vraiment un travail d'étayage, un travail où certes les élèves participent, mais ils participent avec ce soutien de l'enseignante. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer un autre exemple de l'intervention de l'enseignant dans la même séquence, hein, où on voit comment elle reprend. Elle restructure tout ce qui a été dit par les élèves, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en termes de bonnes réponses, de mauvaises réponses, de lecture d'une réponse, de restitution d'une réponse, hein, on est vraiment dans une élaboration collective, hein, pour laquelle le rôle de l'enseignante et la manière dont elle s'y prend, hein, la matière même du langage oral est extrêmement importante. Hein, l'enseignante fixe aux élèves les objets de réflexion, leur apporte les connaissances dont ils ont besoin. C'est aussi extrêmement important, hein, on verra tout à l'heure par opposition dans d'autres classes, hein, comment cette idée de vouloir que les choses viennent des élèves amène à des jeux de devinettes. Dans la classe A, jamais de devinettes. Hein, ou bien, les élèves ont les éléments pour pouvoir réfléchir et élaborer leur réflexion, leur réponse, leur compréhension dans d'autres disciplines, hein, leur connaissance. Et quand il y a besoin, de connaissances qu'ils n'ont pas et qui sera utile pour avancer, elles les apportent. Hein, on ne va pas perdre de temps en devinette. Elle énonce clairement ce qui doit être retenu de ce qui a été dit par la classe. Elle récapitule à l'issue du travail les certitudes auxquelles ce travail permet d'aboutir. Hein, et là aussi, on est dans une opposition tout à fait claire avec ce qu'on voit dans les autres classes où on parle beaucoup, hein, mais on ne sait pas ce qui a été construit en fin de compte. Et pour un certain nombre d'élèves, le flou reste présent. Dans une autre recherche que j'ai publiée plus récemment avec une collègue sur des échanges dans une classe de cours préparatoire, on voit des choses tout à fait analogues avec une enseignante qui, à force de demander aux élèves, hein, dans des séances de lecture, hein, aussi, mais donc au cours préparatoire, d'essayer d'anticiper, de faire des hypothèses sur le texte, etc. Eh bien, à la fin, une fois que tout le travail a été fait, on s'aperçoit que beaucoup d'élèves, et évidemment les élèves les plus faibles, eh bien, ils n'ont rien compris au texte. Et ce qu'ils restituent, ce sont des hypothèses tout ce qui s'est passé dans la première phase, hein, où on a fait parler, où on a fait écrire. Bon. Donc, cette structuration et cette récapitulation paraît quelque chose de tout à fait important. Je ne pense pas avoir le temps, donc là, si j'ai le temps, on peut se donner un, hein, bon, on peut, même si on déborde de 5 ou 10 minutes, c'est pas dramatique. Bon, alors, Donc, vous voyez un moment hein, dans ce que je vais vous lire maintenant, hein, toujours dans cette, dans la même séance que les échanges précédents, ou même, hein, même si vous ne pouvez pas lire, hein, vous voyez que cette fois-ci, ce que dit l'enseignante, c'est massif, ça prend de la place, hein, parce que. Elle reprend les choses, hein, elle remet les choses au point, hein, elle aide les élèves à aller jusqu'au bout de leur réflexion, hein, en reprenant, en restructurant, hein, ce qui ressort, hein, et ce qu'on peut conserver de ce qui a été dit. On est dans du fantastique. Il y a des éléments qui se passent, qui à un moment donné vont énormément gêner le héros, qui s'appelle, et les élèves disent oui, Rip. L'enseignant Rip. Et Rip, à un moment donné, va être complètement submergé par tout ce qu'il va vivre à son réveil. Entre le moment où il est, imaginez la situation. Il va pour se promener. Et vous voyez, on est, quand je vous disais tout à l'heure, on est dans de l'oral, là. L'enseignante, elle n'est pas en train de vouloir modéliser des réponses orales comme de l'écrit. C'est pas ça qui est en jeu et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, hein, c'est, comme je le disais, cette réflexion, cette compréhension de ce qui se joue, de ce qu'on a compris dans ce conte fantastique. Et donc, on est en direct. Hein, la construction de l'enseignante se faisant hein, à ce moment-là de la séance aussi en direct. Évidemment, elle l'a préparé sa séance. Elle sait à quoi ce qu'il s'agit de faire ressortir et quels sont hein, les enjeux de compréhension de ce texte. Évidemment. Hein, mais les choses se construisent et se construisent en direct aussi avec et devant les élèves. Hein, et c'est un peu ça que je veux dire quand je parle d'une modélisation des usages langagiers dans la classe et des usages langagiers qui permettent de réfléchir et là de comprendre un texte. Bon, vous voyez, et en ce moment où il est, et la phrase reste en suspens, comme c'est souvent le cas à l'oral, hein, imaginez la situation, il va pour se promener, il emmène son chien, il sifflote, il se dit, ça y est, je quitte ma femme, qui est en train toujours de me crier dessus. Je vais aller prendre un petit peu de calme dans la montagne. Allez, je suis un gentil gars, je vais aider ce vieillard, tout va bien. Bon, c'est vrai, ils sont bizarres un peu ces gens, mais bon. Allez, je vais boire un petit coup, pourquoi pas, j'aime ça. Allons-y. À un moment donné, rupture par rapport à cette situation, il va se passer quelque chose qu'on ne peut pas, esprit que nous sommes avec nos connaissances, il va se passer quelque chose, un jeu avec le temps. On va, bon, je le lis un peu vite, hein, mais évidemment, si on avait la vidéo hein, et qu'on écoutait, c'est hein, les choses prennent le temps hein, et tout ça dans une relation avec la classe hein, que je ne peux pas rendre ici. Hein, parce que l'oral et les interactions dans la classe, hein, y a plein de choses qui ne ressortent pas dans une transcription. Donc, on va être dans une autre époque. On va voir un personnage qui va vieillir en une nuit. Enfin, une nuit, on ne le dit pas vraiment, hein, c'est lui qui le dit, qui va vieillir d'une façon accélérée. Mais quels sont les éléments qui vont nous permettre de savoir qu'il a vraiment vieilli? Les doigts de la plupart des élèves se lèvent, on a vu le pistolet, on a vu, et hop, ça y est, après cette récapitulation partielle, ça peut réembrayer hein, sur une nouvelle réflexion. Bon. On aura tout à fait un autre contexte, une autre leçon, une leçon de conjugaison sur le subjonctif. Hein, l'enseignant, je voudrais que vous écoutiez ce que vient de dire Liane. Elle a un problème. Elle nous dit, à l'impératif, à la deuxième personne du singulier, on n'a pas de S. Qui peut essayer de la convaincre qu'il ne s'agit pas de l'impératif ou qu'il s'agit de l'impératif? Lui donner raison. Brian. Ce n'est pas l'impératif parce qu'il y a un prénom personnel. Oui, par exemple, si l'on choisit le verbe venir, puisque c'est le cas du verbe venir pour Julie, que serait l'impératif présent de ce verbe? Tatiana, tu peux répondre, viens, viens. Quelle serait l'autre personne venant, etc. Bon, je passe deux ou trois lignes. Non, est-ce que vous pouvez essayer de voir pourquoi? La confusion de Liane, c'est un peu normal qu'elle ait confondu. Dans la façon dont sont exprimées toutes ces phrases, quand on dit « il faut que tu gagnes le championnat », qu'est-ce qu'on a comme idée, hein, puisque l'élève, hein, était embêtée par le S à la fin de gagne. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme idée? Qu'est-ce qu'on a comme idée dans il faut, j'ordonne, j'exige? L'impératif, dit un élève. L'ordre, dit un autre élève. Oui, l'ordre. Et lorsqu'on a travaillé sur l'impératif, c'était aussi cette idée-là. On a plusieurs façons de l'exprimer. Donc, vous voyez, à partir d'une élève qui étonnait, qui signale une erreur, qui, bon, hein, ça y est, c'est le point de départ pour une réflexion qui est menée tambour battant, hein, ça va, bon, mais on saisit les occasions pour mettre tout le monde en réflexion et de manière en même temps extrêmement, et ça aussi, ça fait partie peut-être d'usage, mais plutôt d'usage sociaux que d'usage cognitif, mais les choses vont de pair, hein, de mettre... de ne pas stigmatiser les élèves. La question de cet élève, elle est légitime, elle est intéressante, elle permet de réfléchir. C'est pas, bah, tu t'es trompé, t'as même pas vu que c'était pas un impératif. Ce qui est aussi une manière de réguler les échanges et le climat de la classe. Donc, travail de la classe dirigé de manière ferme et claire, un grand nombre de modélisations, c'est ce que je commençais à dire, hein, consigne au conditionnel, je souhaiterais, elle s'excuse quand elle reprend la parole aux élèves et qu'elle abrège un échange pour faire avancer le temps didactique, elle insiste pour que l'élève qui a la parole réussisse à clarifier une expression confuse, elle justifie et argumente les solutions qu'elle propose, elle donne l'exemple et modélise les pratiques langagières qu'elle cherche à faire partager à la classe. Les élèves parlent et écrivent beaucoup. Hein. L'enseignante, hein, est très présente et parle beaucoup, beaucoup plus que les autres. Mais les élèves, du coup, parlent et écrivent beaucoup dans le cadre de tâches où ils ont à composer, à construire une représentation mentale ou une connaissance nouvelle, à mettre en relation des éléments de savoir, à transformer leurs connaissances antérieures, à formuler des jugements argumentés, etc., etc. Hein, on pourrait ajouter encore à cette liste. C'est-à-dire que, de fait, ça fonctionne. Ça fonctionne, cet exemple, cette manière de mettre les élèves dans des pratiques langagières en étant elles-mêmes le modèle de tout ça. Et aussi, je l'avais un peu déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, hein, l'enseignante éprouve régulièrement le besoin d'expliciter les objectifs d'apprentissage qui correspondent au travail en cours. Donc, un langage qui sert aussi à beaucoup expliciter. Hein, par exemple, ici, dans une correction de production de texte, Maxime, tu peux essayer d'écouter et d'aider Brian, parce que ce que l'on trouve dans le texte de Brian, les manques qui sont dans le texte de Brian, si j'ai choisi le texte de Brian, c'est parce que, dans les vôtres, on a les mêmes pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir, les mêmes remarques dans la marge, les mêmes éléments qui manquent. Alors, si on arrive à travailler sur le texte de Brian, vous allez, vous aussi, pouvoir vous servir de ce qu'on trouve pour l'aider. C'est pour ça qu'on travaille ça, d'accord, hein. Donc, vous voyez, cette manière de réguler, hein, plutôt que de faire la police, elle en profite pour rappeler l'enjeu de ce qu'on est en train de faire, mais ce qui correspond aussi à une habitude qu'elle a, même quand ça n'est pas pour ramener au travail ceux qui seraient en train de s'en écarter, hein, dans des bavardages intempestifs, hein, c'est cette nécessité, hein, qu'elle éprouve de dire ce qu'on est en train de faire, quel en est l'enjeu de travail, hein. On n'est pas simplement sur des tâches, mais toujours, hein, ramener ce qu'il y a sous ces tâches. Bon, je vous l'avais déjà aussi dit, il n'y a pas de temps perdu, gestion tendue du temps, on stimule continuellement les élèves pour qu'ils cherchent dans la direction indiquée, elle-même intervient énormément pour recentrer, valider, invalider, là où les deux autres enseignantes laissent filer le temps, laissent les élèves se débrouiller ou cherchent à donner la parole à tous. Alors, j'en viens aux deux contre-exemples, même si je me suis appuyé longuement plutôt sur l'exemple que je considère comme positif, puisque c'est dans cette classe qu'on voit aussi beaucoup d'élèves en difficulté qui progressent au cours de l'année, et de manière quelquefois inattendue, même si, enfin, par rapport à ce à leurs difficultés, à des difficultés lourdes, même si ça ne veut pas dire que à la fin de l'année, ces élèves en difficulté sont devenus des têtes de classe, si j'ose dire. Par opposition, les classes maintenant E et N. On est beaucoup plus dans un langage utilisé pour restituer des connaissances ponctuelles. L'enseignante parle peu, les consignes sont brèves puisque les élèves sont pris dans un schéma de travail régulier, lire et paraphraser les questions du manuel ou de la fiche de lecture ou encore le texte du manuel. Les élèves n'écrivent que pour recopier des règles ou des résumés ou répondre à des questions de manière normée, tant du point de vue de la forme linguistique que du contenu demandé, immédiatement évaluable en termes de bonnes réponses. Parler, donc, c'est restituer des réponses d'abord écrites à des questions ou à des exercices. Exemple, là, dans une séance de lecture de la classe E, tu lis Laetitia lit à voix haute, ça veut dire quoi, il était transfiguré, un mot qui commence par trans. Transformé, répond un élève, voilà, il était transformé, transfiguré son visage, la figure a changé d'expression, continue Julie. On continue la lecture à voix haute. Ça veut dire quoi, il était conçu en ces termes? Quelques réponses que je n'ai pas pu transcrire parce qu'il y avait un brouhaha. L'enseignante alors conçu, on pourrait mettre, fabriqué, construit, on ne peut pas le changer. Construit, écrit en ces termes, ça veut dire quoi ces termes, avec ces mots? Oui, avec ces mots, on continue et on continue la lecture. Bon, vous voyez, c'est pas exactement le même type de séance. Quand il arrive qu'on donne largement la parole aux élèves, c'est une caractéristique de l'enseignante de la classe E de beaucoup, beaucoup faire parler les élèves, de beaucoup donner la parole, contrairement à l'enseignante de la classe N, où elle fait beaucoup moins participer ses élèves. Donc le souci de faire parler chacun ne permet pas de construire des savoirs ou des compétences. On serait du côté de la conversation ordinaire. On serait du côté de ce que j'appelais tout à l'heure au début de mon intervention, les genres premiers. Un exemple, dans la classe E, une séance de conjugaison sur l'impératif, encore l'impératif, conduite sous forme de jeu. Toujours cette idée que, en faisant beaucoup participer les élèves et en présentant les choses de manière ludique, ça va être motivant, et puis que c'est une manière de donner la parole à tout le monde. Il faut que tout le monde puisse participer, c'est important, pense cette enseignante, à la fois socialement et pour les apprentissages, que tout le monde puisse... Bon, alors elle a monté sa séance à partir d'une boîte où il y a des verbes et chacun va venir à son tour au tableau avec ce verbe, donner un ordre à la classe et après va écrire son ordre au tableau et on va se retrouver comme ça à la fin de la séance avec 25 ordres donnés au tableau. Alors tout le monde évidemment veut participer et puis voilà, ça va durer très très longtemps. Ça va durer plus d'une heure. Et puis, à la fin, ma foi, elle ne peut pas en faire grand-chose et surtout qu'elle n'a plus le temps, elle distribue sa fiche et puis on va lire la fiche. Et voilà. Finalement, on a eu une utilisation complètement ordinaire du langage. On n'en a rien fait sur ce qu'on était en train de faire et sur l'impératif parce que finalement, sa consigne amenait aussi à produire autre chose que des impératifs. Et puis, en fin de compte, ce qu'elle voulait faire, c'était mettre en évidence les caractéristiques de la conjugaison, et notamment la fameuse terminaison sans s à la deuxième personne du singulier. Mais ça, elle l'a pas construit avec les élèves. Et là, bon, donc un langage qui construit rien. Jean Ier. Les devinettes aussi. Par exemple, là encore, j'ai pris un exemple proche. Savoir dans la classe E, savoir c'est quoi à l'impératif. C'est aïe, c'est un peu dur, commente l'enseignant. C'est savon, maîtresse. Oui, c'est savon, la première personne du pluriel. Mais la deuxième du singulier, c'est quoi? C'est save. C'est quoi déjà le verbe? Savoir. Alors l'enseignante essayait de dire là que généralement bon, les élèves non d'ailleurs c'était pas l'impératif, c'était sur le subjonctif, excusez-moi. Anaïs dit sache, très bien Anaïs, dis-le, sache, très bien Anaïs, sachez. Non, c'était bien l'impératif. Et d'ailleurs la maîtresse s'est trompée quand elle a dit savon. C'était juste. Et alors là, un élève proteste. Elle a cherché dans le bécherel. Tricheuse, dit une autre élève. Donc, vous voyez, des. Bon, enfin, je ne commande pas plus. Je crois que ce que je voulais illustrer est clair. Quoi, en ce qui concerne le discours régulateur, pour parler peu importe. Comment est géré la classe, comment sont gérés les échanges, comment sont ramenés au travail les élèves déviants, comment on arrive à stopper des moments qui dégénéreraient. On l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure. Dans la classe A, elle en profite pour rappeler des enjeux. Le cognitif aide à gérer la classe. Par exemple, Hortense, s'il te plaît. On avait déjà un tout à l'heure d'exemple, mais en voilà un autre. Hortense, s'il te plaît, vous pouvez écouter un petit peu. On est en train d'apprendre un nouveau temps et un nouveau mode. C'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que j'ai besoin de votre attention. Alors que dans les deux autres classes, on est plutôt dans des rappels à la règle sous forme directe ou ironique. D'ailleurs, vous n'avez pas écouté. J'ai expliqué tout à l'heure, tout le monde comprend. Et après, tout le monde ne comprend pas. Présentation très très souvent dans la classe N du travail comme de petits exercices faciles. Vous allez voir, ça va être très facile. Au contraire, dans la classe A, quand les choses nécessitent de l'attention, de l'investissement cognitif de la part des élèves, on n'essaie pas de dire que c'est des petits exercices faciles, ou on n'essaie pas de ne donner que des petits exercices faciles. Il y a au contraire une stimulation des élèves en termes de là c'est quelque chose qui va sûrement nous donner du mal. Mais vous en êtes capable. Je sais que vous en êtes capable. Allez, on s'y met et on cherche ensemble. Donc, conclusion, j'arrive au terme de mon exposé en ayant drôlement débordé et j'en suis désolé. Chez ces trois enseignantes, le langage est présent et le langage, l'idée qu'il faut faire parler les élèves est présente, mais pas du tout de la même manière, avec dans un cas un langage qui construit, qui permet de prendre de la distance, un langage qui permet d'expliciter les enjeux. Chez eux, plutôt un langage de tous les jours, dans la classe E, je veux dire, et dans la classe N, des usages très stéréotypés du langage. Voilà, je vous remercie de votre attention et désolé d'avoir un peu débordé. Donc.